Moi, cette idée que je lirai un livre, je retournerai, je lirai Romain. Je lisais le prochain livre, je retournais pour lire Romain. À un moment donné, à la longue, de lire un livre souvent, et tu commences à savoir un peu mieux qu'est-ce qui est dans le livre. Fait que j'ai arrêté de lire le livre de Romain après chaque livre. Puis j'allais juste à travers chaque livre, à chaque fois que je voyais quelque chose dans ce livre-là, qui coïncidait, qui était d'accord avec quelque chose d'autre, ou qui me faisait penser à un autre verset dans un autre livre, je faisais une marque. Puis j'allais faire une marque là, comme ça je savais, okay, tel verset, ça coïncide avec tel verset. Fait que là, alors, j'ai fini le Nouveau Testament, jusqu'au fin de l'Apocalypse. Fait que j'ai essayé de recommencer avec les évangiles. Là, j'ai lu Matthieu, puis cet été, j'étais dans Marc. Puis, je suis venu à ce verset-là. Tu vois, le texte n'est pas gros un matin. Un verset. Évidemment, on va regarder le contexte. Mais, je suis arrivé à ce texte-là. Puis, ça a été comme... Moi, j'aime tellement cette expression-là. C'était comme une 2x4. Paf! Ça a coté la tête. Réveille-toi un peu, là, tu sais. Après que tu t'es réveillé, oublie pas qu'est-ce que tu as lu. Puis, c'est comme, wow! Ça, c'est intéressant. Fait que ça fait peut-être quelques mois que je sais que c'est ça que je voulais amener dans l'Église comme prédication. J'ai attendu juste pour la chance. Et au fur et à mesure que j'ai pensé dessus, j'ai lisé plus. J'ai décidé que qu'est-ce que je vais faire un matin. Ça va être le premier d'une série de trois prédications. Je connais déjà les textes que je vais utiliser. J'ai pas pris le temps de tout écrire les autres. Les deux autres prédications que j'aimerais amener, et je ne sais pas d'ailleurs quand je vais pouvoir les amener. Mais la prochaine fois que j'ai une prédication, que j'ai le droit de choisir mon sujet, on va avoir une deuxième, puis la troisième va suivre après ça, on ne sait pas trop quand. Alors, un matin, le titre c'est « Le reproche de Jésus aux Sadducéens », puis les deux autres, ça va être aux Pharisiens, puis aux Scribes. Jésus est extrêmement franc avec tout le monde. Et des fois, j'aime ça, j'étais en train de lire, puis t'es comme, aïe aïe! J'imagine même pas que Jésus aurait pu dire ça, c'était comme, oh! Wow! En fait, ça m'a fait penser qu'hier soir, j'étais en train de lire un verset avec Nicolas Lucier, puis on était comme, wow! C'est comme Dieu est super sarcastique avec le monde de Jérusalem, puis pour donner un point. Pour les faire remarquer, garde, qu'est-ce que vous avez fait. Et Jésus est souvent comme ça. Il est souvent à la pointe. Puis son point, des fois, ça rentre vraiment fort. Alors, le voilà la raison pour laquelle on va regarder une reproche de Jésus au sein du Seigneur. Le reproche de Jésus. Mais on ne peut pas regarder des reproches, comment prendre des reproches, des choses comme ça. La semaine passée, Joël a amené des choses sur comment de prendre le conseil des gens. De pas fuir ça, mais d'avoir le courage d'aller de l'avant quand on est donné un conseil. C'est intéressant que ça parle un peu le même sujet un matin. Mais un matin, on va parler de qu'est-ce qu'était le reproche de Jésus. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai soudainement réalisé, tu sais quoi? La chose que Jésus utilise pour reprocher les Sadducéens, c'est quelque chose pour lequel les hommes sont très, très, très bien connus. Alors, je ne veux pas demander ça à tout le monde, mais j'imagine que si je demandais à tout le monde, c'est quoi une caractéristique assez bien connue des hommes? Je suis certaine qu'une des réponses serait ceci. Ils ne demandent jamais pour des directions. Jamais. Je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, mes parents ont été allés quelque part visiter quelqu'un, ou je ne sais pas trop où aller quelque part. C'était à une heure de chez nous, si tu prenais une route normale. Là, moi et mon frère, on est en arrière, puis là, mon père, il arrive à un point où il faut qu'il tourne à gauche ou à droite, puis lui, il tourne à droite. Ma mère a dit tout de suite, tu aurais dû tourner à gauche. Puis mon père, il répond, occupe-toi-en pas, c'est un raccourci. Je sais où que je m'en vais. 2 heures plus tard, on est retourné à le point où on est égaré et on est allé à gauche et on est arrivé dans pas trop long à la place qu'on voulait aller. Alors, je me suis toujours rappelé, faut pas prendre les raccourcis de mon père, c'est beaucoup plus long que la route normale. Ça, c'est une caractéristique assez bien connue que des hommes. Une autre chose que j'ai pensé, c'est que on n'a pas besoin des instructions. Tu sais, demain, l'après-midi, là, pour ceux qui vont aller aider je pense que c'est l'après-midi, pour ceux qui vont aller aider à mettre des tables puis des choses ensemble, là, regardez c'est qui regarde les instructions puis qui ne regarde pas les instructions. Je pourrais quasiment mettre l'argent là-dessus, là, mais je ne ferai pas. Mais je pourrais quasiment faire que les hommes, là, ils vont même pas être capables de trouver l'instruction parce que ça va être perdu dans la boîte parce qu'ils vont même pas l'enlever de la boîte. Ça va juste, on va mettre toutes les choses ensemble, puis à la fin, il y a un vis qui reste. Mais évidemment, c'était un extra parce que, au cas où qu'on perde une vis, on n'a pas besoin des instructions non plus. Puis on n'a pas besoin d'une manuel ou une guide. Tu sais, on s'en va, les gens vont aller dans le bois. On n'a pas besoin de guide. J'ai un sens naturel de direction. Puis, ça prend des heures pour retrouver la place de départ. Les femmes rient parce que probablement, ils ont eu des expériences comme ça. dans ce texte ici, Jésus dit, une paraphrase libre, vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas lu les instructions. C'est un peu ça qu'il dit. Et ça s'applique pas juste aux hommes, mais aux femmes. quand que les Sadduciens s'en viennent à Jésus, on va voir dans le texte, on va aller dans deux secondes, quand ils viennent à Jésus, ils demandent des questions, Jésus ne les donne pas des directions, comment aller de Jérusalem à Jéricho, il les donne des directions spirituelles. Puis il les explique, regarde pourquoi vous avez égaré. Vous n'avez pas lu le manuel, vous n'avez pas lu l'instruction. Vous n'avez pas bien compris. Alors, le texte qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 12, le verset 18, jusqu'au verset 27. Fait que si vous avez vos Bibles, et sinon, écoutez bien. Très bien, parce que je ne prononce pas toujours les mots comme il faut. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Première chose à remarquer. Et c'est, je pense que l'auteur, Marc, il a mis ce point ici parce qu'il voulait qu'on remarque. Les Sadduciens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui, Jésus, et lui posaient cette question. Maître, voici que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Le Sadducéen connaissait très bien la loi. Alors, il vient avec cette loi ici. Puis là, il dit, OK, Jésus, là, tu connais cette loi-là? Là, j'ai une question pour toi. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le second épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Déjà, on dit, ce femme n'est pas chanceux. Attends, c'est pire. Il en fut de même le troisième. On commence à demander des questions. Qu'est-ce qu'elle a mis dans son nourriture? Et aucune des sept ne laissa de descendance. Là, ça commence à me faire penser à l'histoire de le barbe noire puis ses femmes. Barbe rousse, désolé. Barbe noire. Moi, c'est noir. Non. Barbe rousse et ses femmes. Il y a sept hommes qui ont marié ces femmes-là et sont morts. OK. Là, la question principale. Tu as vu la loi. Tu connais très bien Jésus. Là, on a un problème ici. Maintenant, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les sept l'ont eu pour femme? OK, Jésus, répondez à mon question. Il y en a sept gars qui ont marié cette seule femme. Aucune d'eux n'a donné une descendance. Quand ils vont ressusciter à la fin, 5 minutes, les Sadduciens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Mais quand la résurrection va arriver, lequel d'entre ces sept va être le mari de cette femme-là? J'aime tellement la réponse de Jésus. Vous allez remarquer que il ne fait pas, premièrement, il ne fait pas une réponse tout de suite. Il ne dit pas, oh, c'est le deuxième à cause d'eux, ou c'est le troisième, ou aucun d'entre eux, ou whatever. La première chose qu'il dit, Jésus leur dit, voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'a pas encore donné la réponse. Il a répondu à une question en arrière de cette question-là. Vous êtes dans l'erreur parce que vous dites qu'il n'y a pas de résurrection. Et la raison pour laquelle vous êtes dans l'erreur, c'est parce que tu ne comprends pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Ensuite, il donne une réponse. En effet, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme les anges dans les cieux. Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui a dit près du buisson. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Votre erreur est grande. Ce matin, allez, voilà. Ce matin, nous allons étudier ce verset ensemble. Nous allons regarder le contexte. On va regarder juste des choses en général qu'on peut apprendre dans ce texte ici. Ensuite, on va regarder le reproche principal de Jésus. Et ensuite, on va regarder l'importance de comprendre la parole de Dieu. Et je veux que ce soit remarqué, ce n'est pas l'importance de connaître la parole de Dieu ou de lire la parole de Dieu, c'est l'importance de comprendre la parole de Dieu. Je vais vous faire remarquer les différences tantôt. OK, premièrement, le contexte. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le contexte? Moi, je pense que chaque fois que je viens en avant, on parle de le contexte principal, on parle à qui est-ce que Jésus a parlé, c'était qui la personne qui était en vue quand que ce verset a été écrit. Et je pensais que ce serait bien juste de prendre une petite break de deux secondes pour regarder pourquoi est-ce que c'est important de connaître ça. Pour les jeunes, ils vont pas être surpris si je dis que si on regarde en Romains, le chapitre 15, verset 4, Paul il dit ceci. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est important quand on connaît le contexte. Quand on ne connaît pas le contexte, c'est de là souvent qu'ils viennent beaucoup des erreurs dans nos interprétations. Deuxièmement, Jésus, maintenant qu'on sait pourquoi il faut qu'on regarde le contexte, maintenant on va regarder le contexte. C'est à qui que Jésus a parlé? Bon, Jésus a parlé premièrement, c'est évident, c'est les deux premiers mots dans le texte qu'on regarde, aux Sadducéens. Les Sadducéens sont venus à Jésus avec cette question-là, puis Jésus a donné une réponse aux Sadducéens. C'était qui les Sadducéens? Les Sadducéens, c'était un groupe juif, pas vraiment une secte, un groupe de juifs religieux, politiques, dont beaucoup des Sadducéens étaient des hommes riches, avec pouvoir. Eux-là, c'était des personnes qui pouvaient contrôler autant dans la politique que dans la partie spirituelle. C'était un groupe de personnes que leur doctrine, une des choses que eux ils vantaient puis disaient pour nous, ça c'est quelque chose qui nous caractérise, c'était le fait que eux ils prenaient comme autorité la Bible seule, l'Ancien Testament, la Torah. C'était leur seule autorité. Les pharisiens, par exemple, et c'est pour ça que les Sadducéens disaient, nous, notre seule autorité, c'est la Torah. C'est parce que les pharisiens s'appuyaient leur autorité sur la Torah et les traditions. Malgré le fait que les traditions n'étaient pas la parole de Dieu. Fait que les Sadducéens disaient, nous, c'est la Bible seule. J'aimerais juste qu'on prenne une pause là. Le fait qu'il disait ça, ça ne démontrait pas qu'il était plus spirituel que les pharisiens. Tout ce que ça démontre, c'est qu'il avait donné, il était en mascarade, si on veut, il avait une masque devant leur face qui faisait « moi je suis spirituel parce que mon seule autorité c'est la Bible ». Il s'est caché leur vrai caractère. Et aujourd'hui, souvent, pas toujours, aujourd'hui on a la même tentation. Souvent, on regarde qu'est-ce que ceux, les chrétiens qui ont fait avant nous autres, puis on dit, j'aime pas qu'est-ce que eux y pensaient. J'aime pas la façon que eux y ont vécu leur vie. J'aime pas tel aspect de leur vie. J'aime pas telle croyance qu'ils avaient. J'aime pas comment que ils ont structuré leur vie chrétienne. Alors, on va rejeter toutes les traditions. Et je dis, non, je m'en fous des traditions de mes pères, des chrétiens avant moi. Moi, tout ce que je veux, c'est la Bible. Mais souvent, ça, c'est tout simplement une beau petit masque qui cache un esprit de rébellion. Et c'est triste que quelque chose qui devrait être une attitude spirituelle est utilisé pour cacher un esprit de rébellion. Je vais vous montrer pourquoi. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Si une tradition est fondée dans la Bible, c'est bien. Il ne faut pas rejeter toutes les traditions sans avoir demandé est-ce que la Bible donne ce principe. Parce que peut-être il y en a des choses, et moi, je vais te dire qu'honnêtement, le plus que j'avance dans la vie, le plus que je réalise que mon père, dans beaucoup des places où que lui, je voyais comme étant super rigide, le plus que je réalise que j'avance dans la vie, le plus que je réalise qu'il était rigide dans cette place-là, à cause d'un principe qu'il voyait dans la Bible. Puis que moi, j'étudie, puis je réalise, aïe aïe, son tradition est pas si out there que j'ai pensé. Puis, le plus que j'avance dans la vie, le plus que je réalise que je deviens de plus en plus comme mon père. Fait que, c'est mon petit à côté. Les Sadducéens, à part du fait qu'ils rejetaient les traditions et disaient, nous, on réclame la Bible comme seule autorité, et la chose qui est peut-être intéressante, c'est que ils disaient aussi, nous, on est les seuls qui savent bien interpréter la Bible. Personne d'autre. Ça c'est qui va interpréter la Bible comme nous autres. Et c'est un peu contraire. On dirait que c'est bizarre qu'il était comme ça, mais il était aussi matérialiste. Il ne croyait pas à la résurrection, comme on a vu, mais il ne croyait pas non plus à la vie après la mort. Il ne croyait pas aux démons ni aux anges. C'était étrange, hein? Il me semble que ça, c'est dans la Bible. Ils étaient matérialistes. Mais encore, je crois que ils ne sont pas si différents que nous autres, des fois. Parce que nous autres, malgré le fait qu'on se dit chrétien, en quoi dans les anges, en quoi dans les démons, en quoi la vie après la mort, puis en quoi il y a une résurrection, malgré tout ça, je crois que souvent, on vit comme si ce n'était pas le cas. On vit comme s'il n'y a pas de vie après la mort. On vit comme s'il n'y a pas de résurrection. Et on demande par notre façon de vivre que notre foi ne fait pas vraiment partie de nos vies. On a fait comme un type de division où que c'est mon foi, ma foi, et c'est ma vie. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Fait qu'on n'est pas si loin des Sadducéens des fois qu'on pense. Puis dernièrement, c'était quoi le but de ces questions-là? Je pense que c'était assez clair. C'était un piège pour Jésus. Les Sadducéens, on sait même avant que la question est demandée qu'ils ne croient pas à la résurrection, mais là, ils demandent une question pour la résurrection. C'est clair que c'était une piège. Et en fait, si on lit l'histoire juive, on réalise que les Sadducéens, ça c'était une question qu'ils demandaient tout le temps aux pharisiens, puis ils utilisaient comme question pour boucher les pharisiens, parce que les pharisiens n'étaient pas capables de répondre. Fait que là, ils s'en viennent pensant, « Ah ah! Jésus vient commencer son ministère. » On va boucher son trou tout de suite. Tout le monde va voir qu'il ne sait pas de quoi il parle. Fait qu'il s'en vient, et on va, comme vous avez vu quand on a lu le texte, c'était totalement l'opposé. Et si on regarde le contexte textuel, le prochain verset, verset 28, une des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et demanda nos questions. Tout le monde qui est autour a vu comment que Jésus avait renversé les questions des Sadducéens, totalement. Si on regarde le contexte textuel, quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est pas juste par après que j'ai pensé à ça, mais c'est comme tu lis le chapitre, puis quand tu arrives à la fin du chapitre, tu commences à entendre la chanson thème de Rocky, là, tu sais. Tu sais. Parce que dans les versets avant qu'on voit les Sadducéens, les pharisiens viennent pour attaquer Jésus avec une question politique. Il veut que Jésus se mette en ennemi à l'État romain. Ensuite, les Sadducéens arrivent avec une question pour attaquer Jésus, pour le discréditer devant le monde. Puis tout de suite après, les scribes arrivent. Ah ah, on va le boucher avec une autre question. Et Jésus, à chaque fois, malgré le fait que, si on peut dire dans le monde religieux, lui était vu comme le underdog, malgré ça, à chaque fois, il se lève en triomphe. Il répond d'une façon, moi je trouve humble, mais d'une façon philosophique, souvent, s'appuyant sur la parole de Dieu, et il arrête ces personnes-là où ils sont, finis. On dirait en anglais, stops them in their tracks. La question est arrêtée. Qu'est-ce qu'on apprend dans le texte? Premièrement, on apprend que la nature de la vie éternelle est totalement différente que qu'est-ce que les Sadducéens pensaient. Parce que les Sadducéens pensaient que ce serait exactement comme la vie terrestre. Et c'est pour ça qu'ils sont venus avec ces questions-là. Parce que, évidemment, si la vie éternelle est exactement comme notre vie terrestre, on a un problème, effectivement. C'est lequel de ces hommes qui va être le mari de cette femme-là? Un problème. Jésus, dans sa réponse, nous démontre que la vie céleste va être beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleure que notre vie ici. Ça va être absolument pas semblable. Il va peut-être avoir des choses qu'on va dire, waouh! On va être capable de reconnaître le sens en être au ciel, mais ça va être là, comparé à où ce que nous on est, comme genre là. Puis on voit ça. La nature de la vie éternelle est totalement différente. Deuxièmement, on voit comment que Jésus a confronté l'erreur et comment que nous aussi, on peut confronter l'erreur. Il présente, je ne prendrai pas le temps à matin d'y aller tout dans des arguments philosophiques que Jésus amène, parce que lui, il le donne d'une façon tellement simple que tu regardes et tu dis, c'est tout vraiment un argument philosophique, mais quand tu le regardes vraiment et tu décortiques qu'est-ce qu'il dit, tu réalises que lui est en train de dire, bien, fondé sur le caractère de Dieu, fondé sur la Bible, vous êtes en erreur. Puis c'est un argument philosophique. Il les amène d'une façon ordonnée à réaliser qu'ils sont dans l'erreur. Et nous aussi, quand on est confronté avec l'erreur, une question, je ne vais pas donner la réponse ce matin, mais une question qui est souvent demandée, c'est ceci. Si Dieu est tout-puissant, est-ce qu'il est capable de créer une roche tellement grande qu'il ne serait pas capable de l'élever? Parce que si oui, il ne serait pas tout-puissant. Ça, c'est une question souvent que j'ai déjà entendue au moins à quelques reprises des étudiants d'université qui n'ont rien d'autre à dire que ça, puis ils essaient de boucher le pasteur. Puis, ça, c'est un exemple d'une erreur philosophique où que nous, on peut répondre quasiment en donnant exactement les mêmes choses. Dieu est tout-puissant, etc. Puis, on ne va pas regarder la réponse ce matin. Si tu veux le savoir, on peut parler par après. Mais ça, c'est un exemple de comment que nous, on peut confronter l'erreur d'une façon philosophique tout en s'appuyant sur la Bible. Et ça, c'est ce qui est important, parce que Jésus s'est appuyé entièrement sur la Bible et a donné une présentation ordonnée. Point 1, point 2, point 3. Le voilà la conclusion, vous êtes dans l'erreur. Votre erreur est grande. Et dernièrement, comme j'ai déjà remarqué, la Bible devrait être l'autorité dans tous les aspects de nos vies. Tous les aspects de nos vies. Jésus s'appuie entièrement sur la Bible. Il cite la Bible à Monet, puis après, il explique pourquoi ce verset-là bouche la question qu'il demandait. Et ça, ça devrait être le cas dans notre vie personnelle. Tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, tout ce que je veux faire, n'importe quoi. Je devrais toujours, toujours, toujours mettre tout contre ce que la Bible dit. Puis je devrais demander, est-ce que qu'est-ce que je pense est en accord avec ce que la Bible dit? Est-ce que qu'est-ce que je veux faire, c'est en accord avec ce que la Bible dit? La Bible doit être la règle pour ma vie. Troisième chose. On va regarder le reproche principal de Jésus. Et maintenant, je vais juste vous expliquer l'importance de le mot que Jésus utilise. Quand il dit, vous êtes dans l'erreur, pas parce que vous avez, c'est pas parce que vous connaissez la parole de Dieu ou rien, c'est parce que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. J'ai fait une étude durant ma paternité sur l'histoire, puis comment que des visions du monde, des points de vue différents regardent l'histoire. Comme les athées, comment est-ce que les athées regardent l'histoire, comment est-ce que les chrétiens regardent l'histoire, et comment est-ce que une religion comme, par exemple, l'hindouisme, une religion panthéistique, comment est-ce que ça se regarde l'histoire? Et j'ai demandé cette question ici. Est-ce que l'histoire est comprenable pour ce point de vue? Pour demander ça, il faut bien savoir qu'est-ce que ça veut dire de comprendre quelque chose. Alors, compréhension, comme vous pouvez voir, évidemment, il faut connaître de quoi on parle. Par exemple, une voiture. Moi, je ne comprends pas des voitures. Je sais c'est quoi, par exemple. Je sais c'est quoi une voiture. Je peux te faire un beau dessin, là, tu sais, de rue. Ça, c'est une voiture. Je sais c'est quoi. Mais je ne le comprends pas. Guillaume, par exemple, il va mieux comprendre la voiture que moi. Il sait comment ça fonctionne. Il est capable de m'expliquer pourquoi mon voiture fait un tel bruit. En tout cas, j'espère. En tout cas, oui, plus ou moins. Oui, plus ou moins. Il est capable de m'expliquer des choses que moi, je ne comprends pas en tout pour mon voiture. Et pour comprendre quelque chose, il faut que tu es capable de dire comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça fait? Troisièmement, il faut demander le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Ici, par exemple, je vais donner une question de si Dieu existe, c'est quoi les conséquences finales? Si Dieu existe, à quoi est-ce que ça amène? Si Dieu n'existe pas, à quoi est-ce que ça amène? Les athées haïssent ces questions-là. Si Dieu n'existe pas, parce que c'est ça qu'eux ils disent, c'est quoi les conséquences finales? Et ça, c'est une des choses que j'ai faites dans mon étude. J'ai regardé jusqu'où est-ce que ça va si je suis un athée? Jusqu'où est-ce que ça va si je crois en Dieu, point à ligne? Si je crois que Dieu existe, bon, il y a des conséquences à ça. Et si je ne crois pas que Dieu existe, il y a des conséquences énormes à ça. Comme par exemple, je n'ai pas aucune fondation pour un système moral. Un athée moral est une contradiction de termes. Un athée ne devrait pas être moral, parce qu'il n'y a aucune raison pour être moral. Ça, c'est une autre chose que si ça vous tente de jaser par après. On va prendre le temps de jaser, j'aime ça parler de ça, mais on n'a pas le temps de regarder ça matin. Juste pour vous expliquer, les conséquences de qu'est-ce que tu crois, tu dois savoir c'est quoi les conséquences. Si on prend un verset biblique, puis on dit, OK, moi un verset que j'aime au bout de Philippiens 4, 8, pensez sur ces choses, tac, 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 tac. Tu ne comprends pas ce verset-là. Si tu n'es pas capable de dire c'est quoi les conséquences de ça. Et finalement, comment appliquer cette connaissance? Si tu n'es pas capable de dire, OK, je sais que dans la Bible, ça dit ça. Si je ne l'applique pas à ma vie, je n'ai pas compris. Et une bonne preuve de ça, c'est tu ne peux pas être sauvé. Ça veut dire tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas être pardonné de tes péchés devant Dieu et justifié devant Dieu. À moins que tu comprennes la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu le mettes en application dans ta vie, que tu l'appliques à ta vie. Parce que le Bible, il dit, ce n'est que par la foi qu'on est sauvé, pas par les œuvres. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas le mettre en action dans ta vie, tu ne vas pas être sauvé. Ça arrête là. Moi, j'ai lu des auteurs qui connaissent la Bible probablement mieux que tout le monde dans cette église. Ils la connaissent mieux que probablement tous les pasteurs ensemble dans l'église, Mais il s'en va en enfer, il ne comprend pas la parole de Dieu. Mais il le connaît très bien. Il faut être capable de mettre ça en application. Maintenant qu'on sait c'est quoi la compréhension, je vais, à travers le reste ici, je vais toujours dire, il faut qu'on comprenne et mettre en pratique. Mais je veux que vous compreniez, mettre en application ta vie, ça fait partie de comprendre. Mais je vais mettre les deux choses l'un à côté de l'autre pour que personne n'est capable de partir ici un matin en disant que David n'a pas dit qu'il faut mettre ça en application dans ma vie. Juste parce qu'il dit, il faut le comprendre. Parce que ça fait partie de la compréhension. Première reproche de Jésus. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas les Écritures. Je veux juste aller vite là-dessus. La source principale de leur erreur était leur ignorance, leur manque de compréhension de la parole de Dieu. Ils la connaissaient très bien, mais ils ne la comprenaient pas, comme qu'est-ce qu'on a parlé avant. Et ça, c'était démontré dans le fait qu'ils ne comprenaient ni la puissance de Dieu, parce qu'on apprend pour la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Fait qu'on peut connaître la parole de Dieu par cœur. Paul, l'apôtre Paul, méchant bon exemple. Pharisien, on peut dire, il était top de son classe, probablement, étant vu que lui, il dit qu'il était top de son classe, et dans ce temps-là, il y en avait des pharisiens qui avaient mémorisé l'Ancien Testament mot pour mot. Si Paul était top de son classe, probablement il était capable de citer l'Ancien Testament mot pour mot, et peut-être meilleur que ça, je ne sais pas si ça arrive meilleur que ça, mais tu peux connaître la parole de Dieu par cœur, mais si on ne le met pas en pratique, c'est qu'on n'a jamais compris. Et toute cette connaissance, ça ne vaut rien. Comme je dis, j'ai un auteur préféré, il écrit des livres, des romans western. Lui, dans son autobiographie, il dit qu'il a déjà lu la Bible 5 fois, d'une barre à l'autre. Mais il n'a jamais mis en application ce qu'il a lu dans la Bible. Ça veut dire qu'il n'a jamais compris qu'est-ce qu'il a lu. Puis il dit, deuxièmement, tu ne connais ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Il y en a deux erreurs flagrantes entre les non-croyants et les croyants sur la puissance de Dieu. Le premier, on pense que toute la puissance de Dieu égale sa capacité de tout faire. Ça, c'est la source de la question pour le roche, tellement grand qu'il n'est pas capable de l'élever. Parce que on pense souvent que quand on parle de la toute-puissance de Dieu, ça veut dire qu'il est capable de tout faire, même des choses qui vont contre son caractère, et même des choses qui sont logiquement impossibles, comme d'amener en existence un triangle qui est rond. Logiquement, c'est impossible. Et Dieu, qui est la source de logique, ne peut pas faire ça. Pas parce qu'il n'est pas assez puissant, parce qu'il est tout puissant. S'il serait capable de faire quelque chose qui était illogique, ce serait une faute. Ce serait une faiblesse, si on peut dire. Et si on amène ça plus loin, si on regarde dans nos propres vies, à chaque fois quand nous, on agit d'une façon illogique, c'est une faute. C'est une erreur de nos parts, qu'on a agi d'une façon totalement par rapport. Pourquoi j'ai fait ça? C'est totalement illogique. Tu sais, on dit ça tout le temps. Si Dieu est capable de faire quelque chose d'illogique, ça c'est un problème. Deuxièmement, Dieu n'est pas capable de mentir. Tite 1, 2. Je pense que c'est ça que j'ai mis. Oui, Tite 1, 2. Pour Dieu, c'est impossible de mentir. Pas parce qu'il n'est pas tout puissant, parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est parfait. Et de mentir, c'est une faute. Ce serait de la faiblesse si Dieu mentait, faisait un mensonge. Et dans nous autres, c'est clair que c'est une faiblesse quand on fait un mensonge. J'ai entendu une prof d'apologétique qui est en train d'expliquer ce point de vue dans une université. Puis il dit qu'il était allé dans un groupe de jeunesse à Monet, puis il a expliqué ça. Il dit... Il n'a pas donné l'explication au début. Il dit tout simplement, Dieu n'est pas capable de tout faire. Puis, le montant de quasiment tous les jeunes ont fait, hein? Puis il dit, mais là, Même la Bible dit que Dieu n'est pas capable de tout faire, il dit que Dieu n'est pas capable de mentir. Fait que, ça c'est un peu, si on peut dire, la réponse à la question pour la roche. Parce qu'une roche qui est tellement grande que Dieu ne serait pas capable de l'élever, serait une roche qui est éternelle. Attends une minute. Une roche, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Comment ça peut arriver qu'il y ait une roche éternelle? C'est quelque chose qui est illogique. Très tôt au départ. Il y en a d'autres raisons pour lesquelles cet argument ne fonctionne pas, mais ça, c'est une des raisons. Deuxièmement, et c'est un autre problème, on pense que Dieu ne peut pas se limiter dans ses actions dans ce monde. On pense que si Dieu est capable de le faire, ben il doit le faire. Un autre problème. La question de la mal. C'est un argument que les athées amènent contre les chrétiens pour dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils disent ceci, Dieu est tout puissant. Oui, tout le monde est d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est correct. Tu peux lire ta Bible et tu vas être d'accord. Indiscutable. Parce que c'est ça que la Bible enseigne. OK. Reviens au secondaire. Dieu est tout puissant. Dieu est omnibénévolent. Si Dieu est tout puissant et il veut toujours le bien, ça c'est ça que ça veut dire omnibénévolent. Il veut le bien d'une façon éternelle. Il est bien éternellement. S'il est tout puissant et il est bien, ça veut dire qu'il a la capacité et le vouloir pour détruire le mal. Le mal existe dans ce monde, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il est capable, il veut, mais le mal est là, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Mauvaise logique. Parce que Dieu est aussi éternel. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par le temps. Ça veut dire qu'il faut rephraser cet argument philosophique pour dire ceci. Dieu est tout-puissant. Dieu est éternellement bon. Dieu est éternel. Ça veut dire que, oui, le mal existe, mais la chose qui est importante, c'est que il y en a toujours le mal, mais ça veut juste dire que Dieu n'a pas encore détruit le mal, mais que ça va arriver. Alors, mettez tes ceintures, là. Quelque chose va arriver dans pas trop long, on ne sait pas. Parce que Dieu est capable, Dieu le veut, et Dieu peut, ça veut dire que à un moment donné, il va le détruire. Un exemple de comment que Dieu, juste parce qu'il est capable de faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est obligé de le faire tout de suite. Et ça ne veut pas dire qu'il est toujours obligé de le faire. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, Dieu a donné le Saint-Esprit d'une façon pas permanente. Et c'est pour ça que David il dit à Monet, « Dieu, s'il te plaît, n'enlève pas le Saint-Esprit de moi. » Mais Dieu a promis dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit va toujours rester avec nous autres, aussitôt qu'on met nos foi en Jésus. Alors, est-ce que ça, c'est que Dieu a changé? Non, je veux juste dire qu'il a changé son façon d'agir avec une peuple pour une certaine période de temps. Et pour conclure ce point-là, cette fausse idée-là, que Dieu doit pas se limiter, s'il est capable de le faire, il doit le faire, cette fausse idée-là amène des erreurs de pensée théologique dans l'Église avec les chrétiens, autant avec les non-croyants, et le problème normal. Et, comme j'ai dit au début, la source principale de cette erreur-là, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. La source principale, et c'est ça que nous allons regarder maintenant, c'est que les Sadducéens n'ont pas compris la parole de Dieu. Et souvent, la source de nos propres erreurs, c'est parce que nous, on n'a pas compris la parole de Dieu. L'importance de comprendre la parole de Dieu. Je pense que on peut dire pas mal avec certainté que la plupart des gens, ils sont d'accord avec ceci. Nous ne pouvons pas prier Dieu, ni le louer, si nous ne le connaissons pas. Si tu ne connais pas c'est qui Dieu, si tu ne sais pas c'est qui, là, tu ne peux pas prier à lui. Tu sais, c'est à qui que tu pries? Je ne sais pas. Ah, OK. Deuxièmement, nous ne pouvons pas suivre Jésus ni être ses disciples si nous ne le connaissons pas. Tout le monde d'accord? OK. Conclusion. Nous ne pouvons pas connaître Dieu, ni Jésus, sans lire la parole de Dieu pour le comprendre. Tu peux lire la parole de Dieu, mais si tu ne cherches pas à comprendre la parole de Dieu, tu ne vas jamais connaître Dieu. Et pour revenir encore, il y a tant de monde qui ont déjà lu la Bible, peut-être qu'ils l'ont lu plus que nous autres, mais ils n'ont rien compris, ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas suivre Jésus si on ne comprend pas la Bible. Et comme je dis, une des parties importantes de compréhension, c'est de mettre en application. Qu'est-ce qu'on lit? Il faut toujours revenir ici parce que je n'aime pas marcher avec ça. Je laisse ici. Et ceci, ce n'est pas juste une chose qui est importante pour les non-croyants. Parce que, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe ou qui n'a pas encore accepté le sacrifice de Jésus, puis pas encore mis sa foi en Jésus, pour cette personne-là, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la Bible. Aussitôt qu'ils mettent en application qu'est-ce que la Bible dit, qu'ils donnent leur vie à Jésus, on peut dire qu'ils ont compris la Bible. Mais on ne peut pas arrêter là. Parce que la vie chrétienne, ça doit être constamment une recherche de comprendre la parole de Dieu. Et il y en a tant de chrétiens, moi entre autres probablement, qui vivent une vie médiocre parce qu'on lit des choses dans la parole de Dieu, mais on ne l'applique pas à nos vies. On dit, ah, c'est un beau concept. Ah, c'est beau. Dieu, c'est cool, qu'est-ce que tu dis là. Mais c'est pas pour moi. J'ai telle chose et je ne veux pas le lâcher. J'ai telle chose dans ma vie et je ne veux pas te la donner. On a parlé mercredi soir avec des jeunes à propos de Philippiens 4, 8 et 9. Ça, c'est un verset que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que Paul, il donne une liste positive sur les choses qu'il faut qu'on pense. Pensez sur ces choses. Puis il donne une liste. Qu'est-ce qui est intéressant? Il me semble que j'ai entendu un prédicateur ici à l'église à Monet qui a dit, il y avait un gâteau ici. Puis il dit, si je dis à telle personne, viens, prends ce morceau ici. Ça, c'est extrêmement exclusif. C'est positif, mais c'est exclusif. Parce que, c'est-à-dire, tu peux prendre ce morceau ici à l'exclusivité, à l'exclusion de tout le reste du gâteau. Tu ne peux pas prendre le reste du gâteau, juste ce morceau-là. Mais si je dis, ne prends pas ce morceau-là, en tout cas, si c'était moi, puis la personne a dit, prends pas ce morceau-là, je dirais, OK, j'enlèverai tout le reste du gâteau, mettrai le reste du gâteau sur mon assiette, puis je m'en irai avec le gâteau, à l'exclusion du petit morceau. Paul, quand il dit « pensez sur ces choses » puis dans la liste positive, c'est à l'exclusion de toute autre chose. Mais combien souvent est-ce qu'on lit ces versets-là puis on dit « c'est beau comme concept de penser sur des choses qui sont pures, qui sont dignes d'approbation. » Mais par après, on n'est pas en pratique parce qu'on regarde un film, on écoute une CD, on lit un livre, on lit un journal, qui n'est pas digne d'approbation. Comme si on pensait que des choses qu'on regarde, écoute, qu'on lit, qu'on fait, ne viennent pas toucher nos pensées. Quand on sait en même temps que, d'une façon psychologique, toutes les choses qui rentrent dans nos cerveaux, par nos yeux, par nos oreilles, vont toujours rester dans notre cerveau. Ça va toujours affecter nos pensées. Mais Paul, il dit, pensez sur ces choses-là. Ça, c'est un exemple pratique de comment on peut dire, regarde, je n'ai pas encore compris qu'est-ce que Paul il dit dans ce verset-là, juste que je le mette en pratique dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit un matin? Ce n'est pas juste pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme sauveur personnel. C'est aussi pour tous ceux qui disent, je connais Jésus comme mon sauveur personnel. Bien. Tu lis sa parole, tu n'as pas encore compris jusqu'à temps que tu commences à mettre ça en pratique. Et le verset qui suit ça, moi, attends, je vais le lire pour lire ça comme il faut, là, Philippiens 4, verset 9. Juste pour le citer, parce que je trouve que c'est tellement bien dit. Il ne donne pas une liste des choses à faire nécessairement dans ce verset ici. Tout ce qu'il dit, c'est ceci. Ce que vous avez appris, reçu, et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le avec une belle promesse, et le Dieu de paix va être avec vous. Comment est-ce qu'on peut savoir ce que Paul a enseigné à ces personnes-là? Et comment que Paul a agi? On lit qu'est-ce qu'il a écrit. On lit les épîtres que Paul a écrits. On lit les actes des apôtres pour voir comment que Paul a agi. Et Paul, il dit, pratiquez-le. Je n'ai pas encore compris un mot que Paul a dit dans le Nouveau Testament jusqu'à ce temps que je suis capable de mettre ce verset-là en pratique. Et je veux juste faire une remarque sur cette promesse-là. Et le Dieu de paix va être avec vous. C'est une promesse qui est liée entièrement à ces deux versets-là, le verset 8 et le verset 9. Ce n'est pas une promesse par rapport qui dit tout simplement, le Dieu de paix va être avec vous. Soyez bénis. Non. Paul dit, pensez sur ces choses-là. Pratiquez tout ce que je vous avais enseigné. Et si tu fais ça, le Dieu de paix va être avec vous. Pourquoi est-ce que si souvent je n'ai pas la paix dans ma vie? Je suis chrétien. Il me semble que je devrais être en paix avec moi-même, avec le monde autour de moi. Il me semble que je devrais avoir la joie, parce que Dieu dit que je vais avoir la joie, que je devrais avoir la paix. Mais mes pensées sont si souvent attaquées par des peurs, par des choses qui font en sorte que, tu sais, j'imagine tout plein de choses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore compris ce que Paul a dit en Philippiens 8 et 9. Pourquoi est-ce qu'un enfant a des cauchemars? Souvent parce qu'il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose qui n'était pas pur, digne d'approbation. Pourquoi est-ce que nous, on a des cauchemars? Pourquoi est-ce que nous, on a des peurs qui ne sont pas logiques? Ton mari ou ta femme s'en va pour une fin de semaine, puis tu as peur que quelque chose va l'arriver. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste avoir la paix, puis mettre ça entre les mains du Seigneur, puis dire, regarde, Seigneur, je sais que tu vas avec elle, puis quoi qu'il arrive, je sais que c'est toi qui es en contrôle. Pourquoi? Parce que je permets que mes pensées méditent sur des choses qui ne sont pas pures, qui ne sont pas dignes d'approbation, qui ne sont pas saintes. Paul n'a pas donné ça comme une loi qu'il faut qu'on suive, puis si on ne l'atteint pas, on est mauvais chrétien. Paul est en train de nous donner un outil pour qu'on peut vivre comme Jésus-Christ. Il est en train de nous donner un outil pour qu'on peut avoir la paix dans nos vies, pour qu'on va savoir que le Dieu de paix est avec nous, qu'on va le voir à chaque jour dans nos vies. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le Dieu de paix en action dans ma vie? Ben, j'ai pas encore compris qu'est-ce que Paul a dit. J'ai pas mis encore en application qu'est-ce que Paul a dit. Et Paul n'est pas en train de dire, si tu fais pas ça, tu es mauvais chrétien. Il est tout simplement en train de dire, si tu veux avoir cette promesse-là, que le Dieu de paix va être avec vous, fais-le. Tu n'es pas obligé. Tu peux vivre ta vie avec des peurs. Tu peux vivre ta vie dans la misère puis sans joie. Et tu es toujours sauvé parce que tu as mis ta foi en Jésus. Mais si tu veux que le Dieu de paix soit avec vous, fais ceci. C'est un outil que Paul nous donne pour qu'on puisse vivre comme Jésus. Un principe d'interprétation, c'est quand on voit un verset qui a un principe dedans comme ceci, vous êtes dans l'erreur parce que vous comprenez les Écritures ni la puissance de Dieu, mais que ce n'est pas écrit à nous autres, on devrait dire, il me semble que ça c'est un principe que c'est biblique, ça devrait appliquer à ma vie. Il y en a-t-il d'autres versets dans la Bible qui sont écrits aux églises, qui sont écrits aux chrétiens et qui appliquent directement à moi, qui sont des promesses pour moi, pour des chrétiens. Alors maintenant, on va regarder. Je veux commencer premièrement avec un verset dans l'Ancien Testament, parce que souvent on pense que l'Ancien Testament c'était que les lois, puis ils étaient obligés de suivre les lois, puis s'ils ne suivaient pas les lois, ben garde, sans pas avec Dieu. Je veux enlever cette mauvaise compréhension tout de suite. Osée 6:6, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. À travers l'Ancien Testament, il y en a en masse des versets comme ça. Jérémie, j'ai trouvé un verset qui était long comme ça, puis c'est pour ça que je ne suis pas là devant nous autres, où que Dieu dit à travers de Jérémie exactement la même chose. Quasiment pareil qu'est-ce que Jésus a dit aux Sadducéens en Marc. Ils sont dans l'erreur parce qu'ils n'ont pas compris ma parole. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à travers l'Ancien Testament. Dieu veut, oui, il veut des sacrifices, mais il veut des sacrifices qui sont donnés à cause de notre amour pour lui. Et pas parce que c'est juste une loi que je dois suivre. Oui, Seigneur, on y va. Je m'en fous qui tu es, mais je vais le faire quand même. Lui, il veut parce qu'on l'aime, on veut savoir c'est qui, puis on veut le suivre. Que ça vient de mon cœur. Acte 17, 11. J'aime tellement ce verset-là. Paul était à Thessalonique, il s'en va à Berry, puis il arrive là, il commence à faire des prédications dans le temple, puis ce n'est pas des chrétiens, encore, c'est pas encore des chrétiens, mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles de ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vérifiaient les mots de Paul, l'auteur de la plupart du Nouveau Testament. Ils vérifiaient ce qu'il disait dans l'Ancien Testament pour être sûr que c'était exact. Ceci est une responsabilité que nous, on devrait prendre. Juste parce que je suis un pasteur, ça ne va pas dire que j'ai bien compris. J'espère que je l'ai bien compris. J'ai étudié pour bien comprendre. Mais des fois, ça va m'échapper. Je ne vais pas voir quelque chose dans le texte que peut-être quelqu'un d'entre vous va le voir. Et votre responsabilité, c'est d'examiner les Écritures pour voir ce que nous on dit, c'est exact. Paul, Philippiens 4, 9, on a déjà vu. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Vous n'avez pas encore compris qu'est-ce que je vous avais dit, à moins que tu sois capable de le mettre en pratique. Et la promesse et le Dieu de paix sera avec vous. 2 Timothée 3, 15 et 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Parlant à Timothée, un jeune pasteur, ça fait longtemps qu'il connaissait ces paroles de Dieu. Et tu vois qu'il ne dit pas que ça t'a déjà rendu sage, mais ça peut te rendre sage. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. À quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Encore, notre connaissance de la parole de Dieu est liée entièrement à qu'est-ce qu'on fait. Notre compréhension, comment est-ce qu'on met ça en application dans nos vies. Verset par excellence, Jacques 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même avec de fausses raisonnements, par de fausses raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, si je le lis, si je le connais très bien parce que je l'ai lu au complet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Ce serait étrange, hein, quelqu'un qui regarde dans le miroir, il s'en va dans le miroir puis il commence à parler à lui-même parce qu'il ne s'est pas reconnu. Tu sais? Il se rase le matin, il brosse ses dents, il part, il s'en va dans la chambre, puis que, « Ah! C'est qui cet homme-là? » Puis sa femme dit, « Ah, c'est toi. » « Hein? Oh, sérieux? » « Ah, OK. » Cet homme-là est une malade. Et qu'est-ce que Jacques est en train de dire? C'est quelqu'un qui écoute la parole et ne le met pas en pratique, et pareil à cet homme-là. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une lecture simple. C'est d'étudier, de décortiquer, d'aller voir l'arrière-plan historique, de dire, OK, c'est pour ça qu'il a dit, parce que là, à telle place, il y avait telle pratique, puis là, il voulait que... C'est d'étudier, puis ça prendre du temps. Puis il est en train de dire qu'il persévère. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, mettant en pratique ce qu'il vient de lire, celui-là sera heureux dans son activité. Une autre promesse, que si je lis la parole de Dieu et que je le mets en pratique, je vais être heureux dans ce que je fais. En conclusion, on a vu que dans l'Ancien Testament, ça c'est un concept que Dieu dit toujours. On a vu que dans les évangiles, Jésus a dit ça aux Sadducéens. Vous êtes dans l'erreur parce que vous avez compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Puis on a vu que dans les apôtres, ça, ceci est un principe que Paul donne à l'Église. Si Dieu met autant d'emphase, parce qu'il faut dire que ça, c'est beaucoup d'emphase, tu sais, c'est dans chaque partie de la Bible. S'il met autant d'emphase sur l'importance de comprendre et, comme partie de compréhension, de mettre en pratique sa parole, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, j'ai pensé à quelques affaires. On devrait premièrement l'étudier le plus possible, avec persévérance, comme Jacques dit. On devrait l'étudier. Deuxièmement, on devrait avoir hâte de venir à l'église, que ce soit le dimanche matin, que ce soit le vendredi soir pour la jeunesse. Peut-être que ça va le mercredi soir dans une réunion de prière. On devrait avoir hâte d'y aller entendre le prédicateur qui va nous expliquer la Bible. On devrait avoir hâte d'entendre de quelqu'un qui parle de la Bible. Parce que c'est quelque chose que nous, on sait que Dieu veut qu'on comprenne. Et si Dieu le veut, OK, je le veux. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Troisièmement, on devrait écouter pour bien comprendre ce que le prédicateur ou celui qui amène l'étude ou que je suis en train de parler avec un ami chrétien, puis on jase pour la Bible, je devrais écouter pour bien comprendre ce qu'il dit et chercher de l'appliquer dans nos vies, comme les Juifs qu'on a lu en Actes 17-11. On devrait toujours aller retourner à la parole de Dieu. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu dit? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux mettre ça en application dans ma vie? Et rien ne devrait être plus important dans nos vies que l'étude de la parole de Dieu. Rien. Pensez, c'est pour quelques-unes à soir, un matin. Je sais qu'il y a quelques-unes que ça fait longtemps, alors vous allez avoir besoin de penser peut-être des centaines d'années en arrière, là. Mais essayez de rappeler quand que, pour ceux qui sont plus vieux, pour ceux qui sont plus jeunes, qui ne fréquentent pas encore, c'est correct, ça va venir. C'est pour ceux qui ont déjà eu une fréquentation, puis comme je dis, pour ça quelques-unes, ça fait longtemps, pensez-y à quand que tu as reçu une petite note d'amour. Combien de fois est-ce que tu lisais? Tu sais quoi? Je pars. Pour être drôle, pour faire remarquer ça, j'ai été en train d'aller à travers mon portefeuille l'autre journée avec Dom. J'ai remarqué que j'ai toujours une petite note d'amour de Laurie dans mon portefeuille. Ça fait facilement 5 ans qu'elle me l'a donné. Mais pensez-y, là, tu sais, quand que tu as reçu la lettre, là, ou la petite note, là, puis tu l'as gardée avec toi, là, tu mettais dans ta poche, puis puis là, au travail, tu sors. Oh! Puis là, t'es dans le cours à l'école, puis tu dis, ah, puis le prof dit, hey, écoute-moi, oui. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si difficile des fois? J'ai lu une citation par un pasteur qui a vécu depuis une centaine d'années. Il a dit ceci. Il dit, je trouve ça curieux que la plupart des gens s'élèvent extrêmement tôt pour y aller à travail. À chaque jour de la semaine. Je me rappelle quand j'ai travaillé aux fermes du Gris, je m'élevé à 5 heures à chaque matin pour avoir le temps de lire ma Bible avant d'y aller au travail. 5 heures. Il dit, je trouve ça curieux qu'ils s'élèvent tôt à chaque matin pour y aller au travail. Mais le dimanche matin, quand ça vient pour aller à l'église, pour entendre la parole de Dieu, oh, que ça, ils ont de misère, s'élever. Oh, que c'est dur. Oh Seigneur, j'espère que tu vois l'effort que je suis en train de faire pour toi. J'ai besoin de 5 tasses de café. C'était intéressant parce que c'est vraiment le cas assez souvent pour la plupart des gens. Pourquoi est-ce qu'on a tant de misère de trouver la joie dans la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on a tant de misère de lire la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si difficile, mais on a tellement de facilité à pogner un livre ou à s'en va chercher un film ou on s'en va au cinéma? Pourquoi? J'espère que un matin, vous allez sortir d'ici en disant Dieu est bon envers moi. Dieu m'a donné tant de choses, pas juste des choses physiques. Il m'a donné son amour, il a donné son fils pour moi. Et j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, à cause de ça, je vais chercher à le connaître davantage. Je vais chercher à étudier la parole. Je vais le manger à chaque jour. Si on ne fait pas ça, si on n'étudie pas la parole de Dieu et on ne met pas en pratique, on est en train de vivre d'une façon qui n'est pas conséquente avec notre foi. Seigneur, tu m'as tellement touché le matin que j'ai pu lire que j'ai lu cette verset, Seigneur, puis Seigneur, je prie que tu vas toucher les cœurs, que les gens vont partir d'ici encouragés, avec un désir de lire ta parole, Seigneur, de te connaître davantage, de mettre en pratique qu'est-ce qu'il lit dedans. Seigneur, que nous allons entendre, quand ensemble, des conversations de toi, que nous allons entendre des personnes qui ont rien que de te glorifier, qui veut rien que de parler de toi, de qu'est-ce que tu as écrit dans ta parole, puis comment est-ce qu'on peut comprendre ça, puis mettre ça dans l'application de nos vies, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, de vivre en conséquence de notre foi. Aidez-nous, Seigneur, parce qu'on a tellement de misère de t'aimer. Et Seigneur, on veut te connaître, on veut comprendre ta parole, on veut vivre pour toi. Aidez-nous, Seigneur. Amen.